Troisième partie. La grande transformation du XXe siècle. Chapitre 10. La crise des sociétés de propriétaires. Nous avons étudié dans les deux premières parties de ce livre la transformation des sociétés trifonctionnelles, fondées sur une tripartition clergé-noblesse-tiers-État, et un enchevêtrement des droits de propriété et des pouvoirs régaliens au niveau local, en sociétés de propriétaires, formées autour d'une séparation stricte entre le droit de propriété, réputé ouvert à tous, et les pouvoirs régaliens, monopole de l'État centralisé. Nous avons également examiné la façon dont la rencontre entre les puissances propriétaristes et coloniales européennes avait affecté l'évolution des sociétés ternaires dans les autres parties du monde. Nous allons maintenant analyser dans cette troisième partie la façon dont le XXe siècle a profondément bouleversé cette structure des inégalités. Le siècle allant de l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 à celui de New York le 11 septembre 2001, se caractérise notamment par l'espoir d'un monde plus juste et de sociétés plus égalitaires, et par des projets de transformation radicale des régimes inégalitaires issus du passé. Cet espoir s'est trouvé confronté au triste bilan du communisme soviétique, 1917-1991, qui explique pour partie le désenchantement actuel et un certain fatalisme face aux inégalités qu'il est pourtant possible de dépasser, à condition précisément de reprendre le fil de cette histoire et d'en tirer pleinement les leçons. Le XXe siècle se caractérise aussi, et peut-être surtout, par la fin du colonialisme et la mise en contact de sociétés et de cultures qui auparavant s'ignoraient presque complètement et communiquaient principalement par le biais de relations interétatiques et des dominations militaires. Nous allons commencer par examiner dans ce chapitre la crise des sociétés de propriétaires des années 1914-1945. Puis, nous étudierons dans le chapitre suivant les promesses et les limitations des sociétés social-démocrates bâties à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Nous analyserons ensuite le cas des sociétés communistes et post-communistes, et enfin celui des sociétés hyper-capitalistes et post-coloniales de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Repenser la grande transformation de la première moitié du XXe siècle. Entre 1914 et 1945, la structure des inégalités mondiales, aussi bien à l'intérieur des pays qu'au niveau international, a sans doute connu la transformation la plus rapide et la plus profonde jamais observée dans l'histoire des régimes inégalitaires. En 1914, à la veille de la guerre, la prospérité du système de propriété privée paraît aussi absolue et inaltérable que celle du système colonial. Les puissances européennes, inséparablement propriétaristes et coloniales, sont au sommet de leur pouvoir. Les propriétaires britanniques et français détiennent alors dans le reste du monde des portefeuilles financiers d'une ampleur inégalée jusqu'à nos jours. En 1945, à peine plus de 30 ans plus tard, la propriété privée a disparu dans le système communiste qui s'est imposé en Union soviétique et bientôt en Chine et en Europe de l'Est. Elle a beaucoup perdu de son emprise dans les pays qui sont restés nominalement capitalistes, mais qui, en réalité, sont en passe de devenir des sociétés social-démocrates avec des mélanges variables de nationalisation, de systèmes publics d'éducation et de santé et d'impôts lourdement progressifs sur les plus hauts revenus et patrimoines. Les empires coloniaux vont bientôt être démantelés. Les vieux États-nations européens se sont autodétruits et leur règne a été remplacé par une compétition idéologique mondiale entre communisme et capitalisme, incarnée par deux puissances étatiques aux dimensions continentales, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Nous allons commencer par prendre la mesure de la chute des inégalités de revenus et de patrimoine survenues en Europe et aux États-Unis au cours de la première moitié du XXe siècle, et surtout de l'effondrement du poids de la propriété privée qui se déroule dans ces pays entre 1914 et 1945. Nous verrons que les destructions matérielles liées aux guerres n'expliquent qu'une part minoritaire de cette évolution, quoique non négligeable pour les pays les plus touchés. Cet effondrement découle aussi et surtout d'une multitude de décisions politiques qui furent souvent prises dans l'urgence, mais dont le point commun est qu'elles visaient à réduire l'emprise sociale de la propriété privée. Expropriation d'actifs étrangers, nationalisation, contrôle des loyers et des prix immobiliers, réduction du poids de la dette publique par l'inflation, par l'imposition exceptionnelle des patrimoines privés ou son annulation pure et simple. Nous analyserons également le rôle central joué par l'invention de progressivité fiscale de grande ampleur au cours de la première moitié du XXe siècle, avec des taux supérieurs à 70-80% sur les plus hauts revenus et patrimoines qui se sont maintenus jusqu'aux années 1980-1990. Avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, tout laisse à penser que cette innovation historique a joué un rôle central dans la réduction des inégalités qui s'est produite au XXe siècle. Nous étudierons enfin les conditions politico-idéologiques qui ont rendu possible ce tournant historique, et en particulier cette grande transformation des attitudes face à la propriété privée et au marché analysée dès 1944 par Karl Polanyi dans son livre éponyme, ouvrage magistral écrit dans le feu de l'action et sur lequel nous reviendrons. Les différentes décisions financières, légales, sociales et fiscales prises entre 1914 et 1950 furent certes le produit de logiques événementielles spécifiques. Elles portent la marque des évolutions politiques passablement chaotiques propres à cette période et elles témoignent de la façon dont les groupes qui se retrouvèrent alors au pouvoir tentèrent de faire face à des circonstances inédites et auxquelles ils étaient souvent peu préparés. Mais ces décisions renvoient également et surtout à des transformations profondes et durables des perceptions sociales du système de propriété privée, de sa légitimité et de sa capacité à apporter la prospérité et à protéger des crises et des guerres. Cette remise en cause du capitalisme privé était en gestation depuis le milieu du XIXe siècle, avant de se cristalliser en opinion majoritaire à la suite des conflits mondiaux, de la révolution bolchevique et de la dépression des années 1930. Après de tels chocs, il n'était plus possible de continuer de s'en remettre à l'idéologie qui avait été dominante jusqu'en 1914, à base de quasi-sacralisation de la propriété privée et d'une croyance absolue dans les bienfaits de la concurrence généralisée, que ce soit entre les individus ou entre les États. C'est ainsi que les forces politiques en présence se retrouvèrent à proposer de nouvelles voies, en particulier diverses formes de social-démocratie et de socialisme en Europe ou de New Deal aux États-Unis. Ces enseignements ont une importance évidente pour l'analyse des développements en cours en ce début de XXIe siècle, d'autant plus qu'une idéologie néo-propriétariste a gagné en puissance depuis la fin du XXe siècle. Cela peut être attribué en partie à l'échec catastrophique du communisme soviétique. Mais cela s'explique aussi par l'oubli de l'histoire et la division des savoirs économiques et historiques, ainsi que par les insuffisances des solutions social-démocrates mises en place au milieu du XXe siècle, dont il est urgent de faire aujourd'hui l'inventaire. L'effondrement des inégalités et de la propriété privée, 1914-1945. La chute des sociétés de propriétaires entre 1914 et 1945 peut s'analyser comme la conséquence d'un triple défi. Un défi inégalitaire interne aux sociétés propriétaristes européennes qui conduisit à l'émergence des contre-discours puis des contre-régimes communistes et sociodémocrates à la fin du XIXe siècle et au cours de la première moitié du XXe. Un défi inégalitaire externe, lié à la remise en cause de l'ordre colonial et au mouvement indépendantiste, de plus en plus puissant au cours de la même période. Et enfin, un défi nationaliste et identitaire, qui mena les puissances européennes à une concurrence de plus en plus exacerbée, et finalement à leur autodestruction guerrière et génocidaire, entre 1914 et 1945. C'est la conjonction de ces trois crises intellectuelles profondes, émergence du communisme et du socialisme, crépuscule du colonialisme, exacerbation du nationalisme et du racialisme, et de trajectoires événementielles spécifiques qui expliquent la radicalité de la remise en cause et de la transformation observée. Avant d'étudier les mécanismes en jeu et de revenir aux transformations politico-idéologiques de long terme qui ont rendu ces évolutions possibles, il est important de commencer par prendre la mesure de la réduction historique des inégalités socio-économiques et de la chute de la propriété privée qui se déroule au cours de cette période. Commençons avec les inégalités de revenus. Voir graphique 10.1. La part du décile supérieur, les 10% des revenus les plus élevés, se situait autour de 50% du revenu total en Europe au XIXe siècle et au début du XXe, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Elle entame ensuite une baisse chaotique entre 1914 et 1945 et se stabilise autour de 30% du revenu total en 1945-1950 et jusqu'en 1980. Les inégalités européennes, qui étaient sensiblement plus fortes qu'aux États-Unis jusqu'en 1914, passent ainsi au-dessous des niveaux états-uniens au cours des Trente Glorieuses, cette période allant de 1950 à 1980, et qui se caractérise par une croissance exceptionnellement forte, particulièrement en Europe et au Japon, et des inégalités historiquement faibles. Le fait que la remontée des inégalités depuis 1980 a été nettement plus forte outre-Atlantique a aussi contribué à faire des États-Unis le leader inégalitaire face à l'Europe à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, alors que le contraire était vrai au début du XXe siècle. Aux États-Unis, la part du décile supérieur se situe autour de 45-50% en 2010-2015 et dépasse ainsi le niveau de 1900-1910. Si l'on examine la diversité des situations à l'intérieur de l'Europe, on constate d'une part que tous les pays pour lesquels des données sont disponibles connaissent un effondrement des inégalités entre 1914 et 1945-1950, et d'autre part que le retour des inégalités depuis 1980 a pris des ampleurs très différentes suivant les cas. Voir graphique 10.2 et 10.3. Le Royaume-Uni, dont la part du décile supérieur dans le revenu national total tourne autour de 40% entre 2010 et 2015, s'approche par exemple plus de la trajectoire observée aux États-Unis, alors que les inégalités sont restées les plus faibles en Suède, où la part du décile supérieur tourne autour de 30% entre 2010 et 2015. L'Allemagne et la France se situent dans une position intermédiaire entre les deux situations. On retrouve ces mêmes résultats si l'on examine l'évolution de la part du centile supérieur et non plus du décile supérieur, avec une avance états-unienne encore plus marquée au cours des dernières décennies suivant cet indicateur. En effet, la part du centile supérieur dans le revenu national total américain passe de moins de 15% en 1980 à plus de 20% en 2010-2015. Nous reviendrons dans les prochains chapitres sur cette remontée générale des inégalités constatées depuis 1980 et les raisons de ces différentes trajectoires et chronologies observées dans les pays européens et aux États-Unis. Du propriétarisme européen au néo-propriétarisme états-unien. À ce stade, précisons simplement que le retour de très hauts niveaux d'inégalité de revenus dans les années 2000-2020, notamment aux États-Unis, avec 45-50% du revenu total pour le décile supérieur et autour de 20% pour le centile supérieur, soit des niveaux presque aussi élevés que ceux observés en Europe en 1900-1910, avec environ 50% pour le décile supérieur et 20-25% pour le centile supérieur, voire un peu plus au Royaume-Uni, n'implique pas que les deux formes d'inégalité ont exactement la même structure. Dans l'Europe de la Belle Époque, 1880-1914, les niveaux d'inégalité de revenus étaient la marque des sociétés de propriétaires. Les plus hauts revenus étaient constitués presque exclusivement de revenus issus de la propriété, loyers, profits, dividendes, intérêts, etc. Et c'est l'effondrement de la concentration de la propriété et des plus hauts patrimoines qui a provoqué la chute de la part des hauts revenus dans le revenu total et la disparition des sociétés de propriétaires sous leur forme classique. Dans les États-Unis des années 2000-2020, les origines des inégalités sont légèrement différentes. Les hauts revenus du capital jouent toujours un rôle central au sommet de la hiérarchie sociale, d'autant plus que la concentration des patrimoines états-uniens a fortement progressé depuis 1980. Mais cette concentration patrimoniale reste à un niveau un peu moins extrême que celui observé en Europe en 1880-1914. Et la forte inégalité états-unienne des revenus en ce début de XXIe siècle résulte pour partie d'un autre facteur, à savoir l'explosion aux États-Unis des plus hautes rémunérations des cadres et des dirigeants d'entreprises relativement aux plus bas salaires depuis les années 1980. Contrairement à une croyance que les principaux intéressés cherchent souvent à promouvoir, cela n'implique aucunement que cette forme d'inégalité soit plus juste ou méritée que la première. Nous avons déjà noté que les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur étaient abyssales aux États-Unis, sans aucun rapport avec les proclamations méritocratiques officielles. Et nous verrons dans le prochain chapitre que cet envol des plus hautes rémunérations reflète également et surtout l'absence de contre-pouvoir adéquat au sein des entreprises concernées et le déclin du rôle modérateur de la progressivité fiscale. Simplement, les mécanismes et processus en jeu, à la fois du point de vue socio-économique et politico-idéologique, ne sont pas exactement les mêmes dans la société néo-propriétariste états-unienne des années 2000-2020 que ceux en vigueur dans les sociétés de propriétaires d'avant 1914. Concernant l'évolution de la concentration de la propriété, on rappellera tout d'abord qu'elle a toujours été beaucoup plus forte que l'inégalité des revenus. La part détenue par les 10% les plus riches atteignait environ 90% du total des propriétés privées en Europe au début du XXe siècle et jusqu'en 1914, avant de s'abaisser pendant l'entre-deux-guerres et dans l'après-seconde guerre jusqu'à 50-55% dans les années 1980-1990, puis d'entamer une remontée depuis cette date. Autrement dit, quand la concentration des patrimoines atteint son niveau historique le plus bas, il s'agit néanmoins d'un niveau comparable au niveau le plus élevé observé pour l'inégalité des revenus. Il en va de même pour la part du centile supérieur. Voir graphique 10.5. Il est en outre possible que les sources disponibles, qui sont paradoxalement moins précises en ce début de XXIe siècle, âge supposé du Big Data, qu'il y a un siècle, à la fois du fait de l'internationalisation des patrimoines, de la montée des paradis fiscaux et surtout du manque de volonté politique des États pour établir la transparence nécessaire, nous conduisent à sous-estimer la remontée de la part des hauts patrimoines au cours des dernières décennies. Deux faits paraissent toutefois bien établis. D'une part, l'accroissement de la concentration de la propriété au cours des dernières décennies a été sensiblement plus fort aux États-Unis qu'en Europe. D'autre part, en dépit des incertitudes, les niveaux de concentration observés au cours de la période 2000-2020 paraissent un peu moins extrêmes que dans l'Europe de la Belle Époque. Aux États-Unis, la part du décile supérieur se situait d'après les dernières données disponibles entre 70 et 75% du total des propriétés privées dans les années 2010, ce qui est évidemment considérable, mais ce qui reste moins élevé que les niveaux de l'ordre de 85-95% observés en France, en Suède ou au Royaume-Uni autour de 1900-1910. Voir graphique 10.4. La part du centile supérieur s'approchait quant à elle de 40% aux États-Unis dans les années 2010, contre 55-70% en France, en Suède ou au Royaume-Uni autour de 1900-1910. Voir graphique 10.5. En raison de la rapidité des évolutions en cours, il n'est toutefois pas exclu que la part détenue par les 90% les moins riches, qui en pratique correspond essentiellement à la part détenue par la classe moyenne patrimoniale, c'est-à-dire les personnes comprises entre le 50e et le 90e percentile, compte tenu du fait que la part détenue par les 50% les plus pauvres et quasi nuls, continue de s'abaisser au cours des décennies à venir. Les États-Unis pourraient alors atteindre le même niveau d'hyperconcentration patrimoniale que celui observé dans l'Europe du 19e siècle et du début du 20e siècle, avec de surcroît une inégalité inédite des rémunérations du travail, auquel cas ce néo-propriétarisme serait encore plus inégalitaire que celui en vigueur dans l'Europe de la Belle Époque. Mais ce n'est là qu'une des trajectoires possibles, car comme nous le verrons plus loin, il n'est pas impossible que de nouvelles formes de plateformes redistributrices s'imposent aux États-Unis en ce début de XXIe siècle.